France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Emmanuel Morse-Duncan, Martine Moni, Emmanuel Rose et Olivier Dehay. Voici une émission qui poursuit la thématique évoquée à l'instant par Anne-Charlotte Raymond avec George Butterworth, compositeur mort au combat à Pozières dans la Somme en 1916. En effet, en ce 11 novembre, je vous propose d'entendre quelques musiques de la Grande Guerre, des musiques françaises, américaines, autrichiennes et anglaises, comme cette œuvre emblématique, les Planète de Gustav Holst, dont Jean-Baptiste Urbain vous proposait d'entendre ce matin Mercure, le messager ailé. Denisa Kershova nous avait offert Jupiter, celui qui apporte la gaieté. Et bien voici la première de ces planètes, écrite de façon prémonitoire juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est Mars, the bringer of war, Mars, celui qui apporte la guerre. Ils trouvèrent les clameurs de Mars presque insupportables après 4 années de guerre. Voilà ce qu'écrit la fille du compositeur Gustav Holst à propos de la création du cycle Les Planètes. C'était le 29 septembre 1918 à Londres. Mars, celui qui apporte la guerre de Gustav Holst, ouvre ce cycle des planètes. Mars, écrit au printemps 1914 et ici interprété par l'Orchestre Philharmonique de la BBC, dirigé par Andrew Davis. La Première Guerre mondiale provoque des pertes humaines encore inédites dans l'histoire de l'humanité. Les historiens donnent des chiffres qui sont encore inconcevables, comme celui de 18-19 millions de morts en 4 ans, 10 millions chez les militaires, 9 millions chez les civils, sans parler de la grippe espagnole qui s'ensuit en 1918 et qui provoque 50 millions de morts d'après l'Institut Pasteur. C'est aussi un bouleversement philosophique, métaphysique, intellectuel, artistique, dont on voit les traces en peinture, en littérature, mais aussi en musique, avec des partitions qui témoignent d'un bellicisme, d'un esprit revanchard, comme cette mélodie dont Claude Debussy a écrit texte et musique, « Noël des enfants qui n'ont plus de maison ».
Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre, pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu tout ça, qu'est-ce que l'on va faire? Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, bénissez-les. Vengez les enfants de France, les petits Belges, les petits Serbes et les petits Polonais aussi. Si nous en oublions, pardonnez-nous. Noël, Noël, surtout pas de joujoux. Tâchez de nous redonner le pain quotidien. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Noël, écoutez-nous, nous n'avons plus de petits sabots.
Noël des enfants qui n'ont plus de maison, composé pendant la Grande Guerre par Claude Debussy, ici chanté par Ellie Hamling avec au piano Dalton Baldwin. Le 11 novembre, c'est un jour de fête. L'armistice donne enfin la fin à cette guerre qui n'en finissait plus. Mais le 11 novembre, c'est aussi une date tragique pour le compositeur Louis Vierne, puisque le 11 novembre 1917, son fils Jacques mourait au combat. Et il écrira pour lui un quintet en do mineur opus 42, qui est une des plus belles partitions de la musique de chambre de la première moitié du XXe siècle. Une partition dont il témoigne dans une lettre à l'un de ses amis, Maurice Blasi. Louis Vierne écrit « Dire mon état d'âme à présent est superflu, n'est-ce pas ? La vie n'a plus pour moi aucun sens matériel, sans but et sans intérêt. Elle ne serait qu'une dérision si je n'avais la volonté de réagir dans un autre sens et de consacrer la fin de mon existence à une tâche tout idéale. J'ai dit adieu pour jamais à toute ambition de gloire passagère et renoncé à cette vaine agitation extérieure qu'on appelle lutte pour la vie, pour me donner seulement à la production. J'édifie en ex voto un quintet de vastes proportions dans laquelle circulera largement le souffle de ma tendresse et le tragique destin de mon enfant. Je mènerai cette œuvre à bout avec une énergie aussi farouche et furieuse que ma douleur est terrible, et je ferai quelque chose de puissant, de grandiose et de fort, qui remuera au fond du cœur des pères les fibres les plus profondes de l'amour d'un fils mort. Moi, le dernier de mon nom, je l'enterrerai dans un rugissement de tonnerre et non dans un bêlement plaintif de moutons résignés et béats. Le troisième mouvement, Allegro molto risoluto, de ce quintet en do mineur, l'opus 42 de Louis Vierne, interprété par le quatuor Arthur Leblanc, Hibiki Kobayashi et Brett Molzan au violon, Jean-Luc Plourde à l'alto, Ryan Molzan au violoncelle, avec le piano de Stéphane Lemelin. Partition, je le disais, dédiée à son fils Jacques Vierne, mort pour la France en 1917, le 11 novembre 1917, à l'âge de 17 ans. Un doute subsiste sur cette mort. Jacques Vierne s'est-il suicidé? A-t-il été l'un des fusillés pour l'exemple de 1917? Ce sont des musicologues qui évoquent cette possibilité. Quoi qu'il en soit, cela n'enlève rien à la douleur de son père et, en ce qui nous concerne, à la grande valeur artistique de ce quintet. Ajoutons qu'à la fin de la composition de ce quintet, Louis Vierne apprend que le 29 mai 1918, son frère René Vierne a été pulvérisé par un obus et il lui dédiera plus tard une partition pour piano intitulée Solitude.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors au sujet de Mars de Gustav Holst, j'évoquais une partition prémonitoire de cette guerre, de cette grande guerre. En voici une autre, c'est la troisième des trois pièces opus 6 d'Alban Berg qui s'intitule Marche, tout simplement. Nous allons écouter, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigée par Claudio Abbado. C'est une partition que Alban Berg a conçue en 1913-1914 au moment où il travaillait sur son opéra Wozzeck. Là aussi, dans un environnement soldatesque, Berg qui sera plus tard soldat de l'armée austro-hongroise, tout comme son maître Arnold Schönberg, à qui cet opus 6 est dédié.
Thank you.
C'est l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par Claudio Abbado que nous entendions dans ce troisième mouvement de l'opus 6 d'Alban Berg, trois pièces qui se terminent par cette marche. Entre Dange et Denezy, un soldat rentre chez lui. 15 jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà, a marché, a beaucoup marché, s'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Vous avez peut-être reconnu là les premiers mots du texte que l'écrivain vaudois Charles-Ferdinand Ramu avait écrit en 1917 pour le compositeur Igor Stravinsky, qui composera l'histoire du soldat à la fin de la Grande Guerre, une sorte de Faust de la Première Guerre mondiale où le diable joue avec l'âme de ce pauvre soldat. L'âme étant une pièce de bois essentielle à la résonance du violon, et bien c'est un violon qui représente ce soldat et son âme maudite entre marche, tango, valse et autres polkas. Voici l'orchestre de Cleveland, dirigé par Pierre Boulez, dans un extrait de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky sur France Musique et francemusique.fr. Thank you.
Thank you.
Tango, valse, polka, voilà les trois danses écrites par Igor Stravinsky pour cette histoire du soldat composée en 1917-1918. Et nous écoutions un extrait avec le violoniste William Purcell et ses collègues de l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et voici un texte célébrissime dans les pays de langue anglaise. Il s'agit de In Flanders Fields, un poème de John McCrae, qui était un médecin militaire canadien, mort d'une méningite dans un hôpital du Pas-de-Calais le 28 janvier 1918 à l'âge de 45 ans, après avoir écrit plusieurs poèmes, dont celui-ci, donc intitulé Dans les champs des Flandres, In Flanders Fields, qu'on a traduit en français par Au champ d'honneur. Un poème écrit pour les funérailles d'un de ses amis. C'était en 1915. Ce poème a obtenu un très grand succès après sa publication dans la presse britannique. Ce poème est devenu un véritable emblème dans tous les pays de langue anglaise, en particulier l'évocation des Red Poppies, des coquelicots rouges comme le sang des hommes et qui encore aujourd'hui symbolisent l'hommage des anglo-saxons aux morts de la Grande Guerre. Sur notre site, vous pouvez voir une vidéo très émouvante d'une tradition respectée chaque 11 novembre au Royal Albert Hall de Londres en présence de la reine. Après les musiques militaires et les fanfares, et bien le silence absolu se fait parmi les 5000 spectateurs et une pluie de pétales de coquelicots tombe du plafond, coquelicots en tissu, chacun de ces pétales représentant l'un des millions de morts de cette Great War, célébration le 11 novembre, qu'on appelle parfois en Angleterre le Poppy Day, le jour du coquelicot justement. Voici donc ce poème de John McCrae, mis en musique par l'américain Charles Ives. Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent entre les croix qui, une rangée après l'autre, marque notre place. Et dans le ciel, les alouettes, chantant valeureusement encore, sillonnent, à peine audibles parmi les canons qui tonnent. Nous, les morts, il y a quelques jours encore, nous vivions, goûtions l'aurore, contemplions les couchers de soleil, nous aimions, nous étions aimés. Aujourd'hui, nous voici gisants dans les champs des Flandres.
As the soldiers pass along, his breaking, make it a sing this cheery song. Keep the home fires burning while your hearts are yearning, though your lads are far away. A nation in distress, and we gave our glorious laddies on our paddock no less. For no gallant son of freedom to a tyrant yoke we bend, and a noble heart must answer to the sacred call.
The home's fires burning. Entretenez les feux de vos foyers, nous dit cette chanson du compositeur Ivor Novello sur un texte de Lena Gilbert Ford, chanté par le ténor irlandais John McCormack. C'est un message d'espoir de 1914 aux femmes qui restaient au foyer justement, till the boys come home, jusqu'à ce que les garçons rentrent à la maison. Musique de 1914 avec une fleur au fusil, comme l'on disait. Mais bien sûr, 4 ans plus tard, eh bien, la constatation sera là, la guerre n'avait pas du tout été ce qu'on avait attendu, ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce que rappelle John Herbert Fools, le compositeur anglais, à qui l'on doit un requiem mondial, A World Requiem, une partition qu'il a écrite au lendemain de la Grande Guerre et qui a été créée le 11 novembre 1923 au Royal Albert Hall avec 1250 instrumentistes et chanteurs sur des textes sacrés et profanes, une partition annonciatrice du War Requiem de Britten qui utilisera des poèmes de la Grande Guerre, ceux de Wilfred Owen. Voici un extrait de ce World Requiem de John Herbert Fools avec le baryton Gerald Finley. Gerald Finley, mariton, le chœur symphonique de la BBC. L'orchestre symphonique de la BBC était dirigé par Léon Botstein dans cet extrait du World Requiem, Requiem mondial, opus 60 de John Herbert Fields. Et tout à l'heure, je ne vous avais pas dit que c'était Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, avec au piano Michael Ponti, qui interprétait In Flanders Fields de Charles Ives sur un poème de John McRae.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Les morts de la Seconde Guerre mondiale sont anonymes ou prestigieux. Par exemple, le compositeur Enrique Granados, mort dans des circonstances dramatiques. Le 24 mars 1916, le navire sur lequel il voyageait, il revenait avec sa femme d'une tournée américaine. Ce navire est torpillé par un sous-marin allemand, un U-boat, et Granados se noie avec son épouse. Mais déjà le 7 mai 1915, 1100 personnes avaient péri en mer au large de l'Irlande à bord du RMS Lusitania, également torpillé par un U-boat. Parmi ces victimes, 128 Américains, ce qui a fait basculer l'opinion américaine. Et il se trouve que sur le bateau, il y avait également une petite fille avec ses parents, dont le sort a touché le compositeur Frank Bridge, qui a écrit pour cette petite Catherine, une jeune fille de 9 ans, périt en mer avec ses parents ce 7 mai 1915, une lamentation, Lament, qui sera créée au Proms de Londres, sous la direction du compositeur, le 15 septembre 1915.
Thank you.
L'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, dirigé par Charles Groves, dans ce Lament, Lamentation de Frank Bridge de 1915. Et nous restons dans le cadre de la musique anglaise avec Gustav Holst, qui est loin de n'avoir composé que Les Planètes. On lui doit notamment, pendant l'été 1919, il y a donc un siècle, Ode to Death, Ode à la mort, sur un poème de Walt Whitman, immense poète américain, témoin d'une autre effroyable guerre, la guerre de sécession, la première guerre de l'ère industrielle, qui lui inspire ses vers « De moi vers toi monte de joyeuses sérénades ». Il s'adresse à la mort. « Je propose des danses pour te saluer. Les paysages et les étendues du ciel se prêtent à ta venue. Et la vie et les champs, l'obscurité immense et pensive. La nuit silencieuse sous les étoiles sans nombre. Le rivage de l'océan, le chuchotement rauque de la vague, voix familière. Et l'âme qui se tourne vers toi. Ô mort, grandiose, soigneusement voilée. Le corps qui, avec gratitude, se blottit contre toi. »
Thank you.
Par-dessus la cime des arbres, je t'adresse un chant, par-dessus les vagues qui se gonflent puis déferlent, par-dessus les myriades de champs et les vastes prairies, par-dessus les villes encombrées, les quais et les routes chargées, je te chante cet hymne dans la joie, Oh mort, oh death, c'était Ode to Death de Gustav Holst sur ce poème de Walt Whitman, extrait des Leaves of Grass, les feuilles d'herbe, une partition composée à l'été 1919. Retour sur la guerre, sur des partitions composées pendant la guerre. Nous y écoutions tout à l'heure le Noël des enfants qui n'ont plus de maison de Debussy. Eh bien Debussy, en 1915, rend hommage à l'amitié franco-belge, à Sa Majesté le roi Albert Ier de Belgique et à ses soldats. Il écrit cette berceuse héroïque. Berceuse héroïque. Voilà le titre étonnant de cette partition de Claude Debussy, ici interprétée par l'Orchestre National de l'ORTF, dirigée par Jean Martinon, partition composée à la demande d'un écrivain anglais, Hall Caine, pour un livre d'hommage au roi Albert de Belgique, dans lequel ont été imprimées, outre cette partition de Debussy, des œuvres de Messager, Saint-Saëns, Mascagni, Elgar ou encore Paderewski, écrit pour la circonstance. Et cette berceuse héroïque a été créée le 26 octobre 1915 par les Concerts Colonnes, dirigés par Camille Chevillard. Nous allons terminer ce tour d'horizon de quelques musiques de la Grande Guerre avec une partition de Gabriel Fauré, écrite en 1919 et qui s'intitule « C'est la paix » sur un poème d'une certaine Georgette de Blady.
Pendant qu'ils étaient partis pour la guerre, on ne dansait plus, on ne parlait guère, on ne chantait pas. Mes sœurs, c'est la paix, la guerre. Chasser la horde germaine, ils auront nos cœurs au lieu de la haine, ils auront l'amour.
On pourrait imaginer plutôt une chanteuse pour ce C'est la paix, opus 114 de Gabriel Fauré, sur ce poème de Georgette de Blady, mais c'était le baryton Marc Moyon avec au piano Anne Lebozec. Bonjour Lionel Esparza.
Ouais, bonjour François-Xavier Chemchak. Dites-moi, on va poursuivre ce que vous venez à peine de commencer. Demain et les jours suivants, une grande balade en forêt.
Exactement, tout à fait, avec l'ami Gabriel, des folas, des faucilles et des forêts.
Très bon celle-là aussi. À demain François-Xavier.
Les grands entretiens, 22h30, Judith Chen, France Musique.
Cette semaine, Christian Ivaldi se confie avec humilité, discrétion. Il raconte cette enfance bercée par Suzy Deler, son adolescence au conservatoire, une carrière qui s'envole, récital auprès des plus grandes, Rita Streich, Régine Crespin, Shirley Verrett et j'en passe. Création contemporaine, musique de chambre, enseignement. Christian Ivaldi, c'est un second rôle qui crève l'écran.
Les grands entretiens, 22h30, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr. Vivez l'expérience totale de la musique grâce à la rubrique concerts sur francemusique.fr. À écouter ou découvrir en vidéo plus de 2000 concerts disponibles gratuitement. Hilarianne, Martha Argerich, Gil Shaham, Bertrand Chamaillou, les plus grandes œuvres par les plus grands interprètes depuis l'auditorium de Radio France. Sur francemusique.fr, vous êtes aux premières loges.
À réécouter sur francemusique.fr.